Eh bien, bonjour à tous et puis merci d'être venus si nombreux alors qu'il est quand même 14h et c'est post-digestion. Et on est jeudi, exactement. Donc, il ne vous a pas échappé que c'est le festival littéraire du premier roman donc de Chambéry. Donc, il y a le mot littéraire dedans, donc a priori, il n'y a pas tellement de lien avec l'image. Alors moi, ce qui m'arrange, parce que j'ai beaucoup de mal avec les images, je déteste être photographiée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve à côté d'un photographe, tout est complètement logique. Mais j'ai beaucoup de mal et moi j'ai choisi les mots justement pour échapper aux images. Alors ça n'a pas été le cas donc de mon invité qui est Olivier Roller, photographe, que je connais bien. On va se dire tu durant l'interview si ça vous gêne pas, ça se fait pas trop, mais ça ferait bizarre de se dire vous, parce qu'on se connaît vraiment bien. Alors, Olivier Roller, donc vous allez vous présenter, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, mais moi, par rapport à ma situation d'écrivain qui se méfie de l'image, est-ce que vous avez choisi les images peut-être justement parce que vous n'étiez pas à l'aise avec les mots. C'est l'inverse de moi, en fait.
Eh ben, oui, c'est exactement ça. Déjà, c'est vrai que c'est rigolo, cocasse d'être là, dans un festival d'images.
De littérature.
De littérature,
voilà. Beau lapsus.
Mais moi, je veux mettre des
Qu'est-ce
images
que
partout,
je disais
donc du coup, je me sens assez à l'aise dans un festival de littérature. On ne vous a pas encore dit, mais l'année prochaine, ça va devenir aussi un festival d'images. Non, ce n'est pas vrai, mais je compte convaincre en fait les organisateurs.
Voilà, elle descend les marches, là. On ne l'a pas encore prévenue, Olivia.
Elle vient de me dire que je suis virée et qu'il faut que je parte, c'est ça j'étais ravie de vous rencontrer. Et donc, en effet, au fond, moi, j'ai toujours pensé que les images, c'était des mots. En tout cas, pour le dire plus précisément, les images, c'est du langage. Et si moi, à l'inverse de Clara, j'ai décidé de devenir photographe, je m'adresse en particulier aux jeunes qui sont là, qui sont lycéens. L'avenir vous réserve plein de choses formidables. Et c'est justement parce que les mots, à la base, ce n'étaient pas mes amis. On est dans une société, qui plus est la société française, où le mot, en fait, est starifié, quoi. Et si vous êtes un peu timide, si vous avez du mal à vous exprimer, eh ben, les mots vous écrasent. Moi, c'est comme ça que je percevais quand j'avais entre 16 et 22 ans. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et donc, je me suis dit, tiens, au fond, les images, c'est une manière de créer du langage, mais c'est un langage un peu décalé. Je dis souvent un langage de filou. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « je t'aime ou je te déteste », bon, tout le monde comprend ce que vous voulez dire. Et moi, dans mes photographies, alors je fais du portrait principalement, je photographie des visages. Quand on montre les photos que je fais aux gens, la moitié va dire « il t'aime », la moitié va dire « il te déteste ». Donc, il y a une polysémie, en fait. Et ça me réjouit, ça me protège, parce que ça me permet de me cacher, alors que les gens comme Clara, qui utilisent exclusivement le langage, quand ils parlent, il faut qu'ils soient rigoureux et précis, et on sait exactement ce que ça veut dire.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il y a moins d'ambiguïté avec le langage qu'avec l'image, c'est ça.
Ouais. Et là, je ne veux pas m'adresser spécifiquement à la prof de français qui est là, mais j'ai toujours été très étonné. Alors, moi, je suis un garçon qui est né au siècle dernier, donc les choses ont un peu changé aujourd'hui. Mais vous voyez, en classe de première, on fait des analyses de textes littéraires. On a le bac de français et on étudie des gens formidables et puis d'autres un peu moins. Moi, par exemple, Bossuet ne m'a jamais séduit terriblement. Et à l'inverse, on n'étudie pas les images. Il se trouve qu'on est électeur, on est consommateur, donc on est face à des images sans arrêt de la publicité qui cherche à nous vendre des choses, et il n'y a pas
d'éducation à l'image, voilà. Alors qu'il y a une éducation aux mots, ça c'est vrai. Donc, alors en parlant d'éducation à l'image, tu vas nous éduquer un peu à l'image avec cette rencontre. Actuellement, Olivier, il est sur deux projets, l'un qui va se finaliser en livre en septembre, et l'autre qui est déjà en cours et qui est une exposition, notamment au musée Chagall à Nice. Et on va parler du premier. Et le premier, c'est sur le Bataclan. Alors le Bataclan, pour rappel de mémoire, en 2015, il y a eu un attentat à Paris, dans une salle de concert qui s'appelle le Bataclan, et des terroristes sont rentrés et ont tiré dans la salle des gens qui écoutaient un concert. Et ça a été un carnage. Alors, il y a eu après un procès, qui est d'ailleurs toujours en cours, je crois. Procès toujours en cours. Mais c'est un événement qui a évidemment beaucoup marqué les gens. Et Olivier, toi, tu as fait des photos, tu vas nous expliquer, sur les rescapés, certains rescapés du Bataclan, mais qui ont une particularité. Est-ce que tu peux nous dire laquelle ?
Alors, oui, alors donc, vous ne saviez pas, mais ça va être une après-midi joyeuse. On va d'abord parler du Bataclan, et ensuite on va parler de l'Ukraine. Mais on essaie de le faire de manière sympathique et
Ce soir, ce
prospective.
sera le Rwanda, hein,
Voilà.
comme ça.
En fait, ce que dit pas Clara, mais c'est vrai que, pardon, on rigole un peu, mais c'est qu'à force d'avoir le nez dans la mort, à un moment donné, il faut s'en sortir. Et la pirouette intellectuelle, elle permet de mettre à distance ça. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que, en tant que photographe, j'ai rencontré un jour un garçon que je devais photographier pour la couverture d'un livre, rien à voir avec le Bataclan. Et puis, il essaye différentes tenues, et à un moment donné, il se met torse nu et il a un magnifique tatouage sur son bras. Et je lui dis, je suis spécialiste, moi, des questions un peu simples et directes. Je lui dis, ah, il est trop beau ton tatouage, vas-y, raconte-moi c'est quoi. Et il me dit, en fait, je suis un rescapé du Bataclan et je me suis fait ce tatouage quelques mois après la tuerie. Donc, ça a éveillé évidemment une curiosité évidente chez moi. Et il rajoute, et d'ailleurs, on est nombreux dans le même cas à s'être fait tatouer après. Et donc là, je ne sais pas comment vous pouvez vous-même imaginer ça, mais je comprends quand il dit ça qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'imagine que vous serez d'accord avec moi, quand on est confronté à un événement dramatique, on espère qu'on ne sera jamais confronté à un événement de cette nature-là, et ben, nous, les gens qui n'avons pas connu ça, on essaie de mettre à distance, en fait, d'oublier dans la mesure du possible, c'est difficile, mais en tout cas de ne pas être confronté tout le temps avec ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on a vécu ça, cet attentat, on veuille s'inscrire dans la chair de manière définitive et douloureuse, une marque qui sera visible par les autres, mais qui sera visible par nous-mêmes également. Et donc ce projet est né de là, et on va commencer à vous montrer une première image. Donc sur le Bataclan, il va y avoir...
Parce que du coup, alors après Olivier a contacté, voilà, a contacté d'autres victimes qui, il a gagné leur confiance et ils ont tous accepté de se dénuder et de montrer leur tatouage. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Alors par exemple, Olivier, tu vas nous expliquer, mais il y a quand même dans les dessins. Je vois que le premier à gauche, c'est le premier, c'est Christophe, c'est le
Ouais.
premier qui est venu chez toi. Et il a donc un squelette, une danse macabre en fait, sur l'avant-bras. Est-ce qu'ils t'ont parlé de leur tatouage? Est-ce qu'ils ont une signification particulière?
Oui, alors il y a deux choses à dire. Peut-être avant de rentrer dans l'expression des images, on racontera aussi l'indispensable son, comment je
Oui, on
relie
regarde
ça aux
les
mots.
images.
Mais commençons aux images, dit Clara, c'est elle la patronne. Alors, vous voyez. Donc Christophe, le monsieur à gauche, qui est le premier que j'ai rencontré, vous voyez, il s'est fait cette danse macabre. Donc c'est une iconographie assez célèbre à la fin du Moyen Âge, dans l'est de la France et en Allemagne, deux squelettes qui dansent. Et là encore, moi, maintenant je les connais, on a passé du temps à parler, mais vous qui découvrez ça, vous devez normalement vous poser la question, si vous pensez à vous-même, c'est grand, c'est pas très joyeux. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire un petit oiseau, quoi? Enfin, j'ai autre chose que de me souvenir chaque jour de ce memento mori, finalement. Souviens-toi que tu vas mourir. Pour les plus jeunes qui sont dans la salle, dans l'histoire de l'art, dans les peintures, depuis le XVIIIe siècle, on va dire, assez régulièrement, les peintres peignent un crâne, en fait, dans leur peinture. On appelle ça un memento mori, en latin. Souviens-toi que tu vas mourir. Je m'adresse à la professeure pour être sûr que ma traduction est la bonne. Visiblement, ça colle encore. Et c'est une manière de dire, nous sommes mortels. Mais pourquoi ce garçon-là, à ce moment-là, se fait ça? C'était ma première interrogation. Et donc, c'est évidemment des questions que j'ai longtemps posées pour passer rapidement en revue les photos. Donc, la dame du milieu, Stéphanie, qui s'est fait sur sa cuisse cet énorme tatouage qui est une jeune femme qui embrasse, vous ne le voyez pas bien là, mais c'est une jeune femme qui embrasse en fait un squelette qui représente la mort. Donc là encore, ouais, vous imaginez...
Et c'est pas le nom de la chanson qu'il y a écrit en dessous?
Alors, il se trouve qu'en plus de ça, il y a écrit Kiss the Devil. Et il se trouve que ce soir-là, au Bataclan, il y avait un concert d'un groupe américain. Et il se trouve que hasard de de la soirée, les terroristes rentrent et commencent à tirer sur une chanson qui s'appelle Kiss the Devil, donc Embrasse le Diable.
Donc elle s'est mise, elle a fait tatouer la chanson en fait sur sa cuisse.
Exactement.
Et le troisième rescapé, alors lui, c'est encore plus étendu son tatouage.
Ouais. Alors Jean-Claude, le monsieur à droite, donc s'est fait tatouer plusieurs choses, mais celui dont on va parler, c'est celui sur son bras gauche, donc à droite de l'image. En fait, il est sorti du Bataclan par une issue de secours. Et issue de secours sur laquelle Bansky, qui est un graffeur américain célèbre, a quelques semaines après fait un dessin. Et donc, il a fait reproduire le dessin de la porte par laquelle il s'est enfui. Et donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est un personnage avec les yeux tout noirs. Et il y a des traces, quand vous regardez en bas, en fait, il y a tous les traits, en fait, c'est des traces de balles. Donc, tout ça pour dire que ce que ces gens-là font comme tatouage, c'est, pour le dire pudiquement, dur, et c'est du dur, quoi, c'est solide. Et donc, j'étais sans arrêt perturbé par l'enjeu. Pourquoi, en fait, se faire ça sur sa peau, ce qui fait que c'est ce qui nous relie par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, le rapport des mots à l'image. Tout naturellement, en fait, lorsque le premier arrive pour qu'on fasse l'entretien, c'est Jean-Claude, le monsieur à droite. Je lui dis, écoute, j'ai pensé à un truc, c'est qu'on va pas pouvoir faire de photos comme ça, j'ai besoin que tu me racontes en fait cette soirée. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit, bah ouais. Et donc, après les photos, il a fait le récit de la soirée. Et pour chacun, on a allié ces images-là, qui sont assez factuelles, en fait, assez pauvres. Vous voyez, il s'agit de montrer un personnage et son tatouage avec un récit. Le récit, chacun est libre de faire le récit qu'il a envie de la soirée, qui commence toujours par la même chose. Qu'est-ce qui se passe avant d'aller voir ce concert? Et puis, suivant les gens, par contre, la fin... est plus ou moins longue, parce que tous, on est face à des rescapés, on va en y revenir après, tous en fait, pour le dire autrement, aucun des rescapés n'est encore sorti du Bataclan à l'heure où on parle. C'est-à-dire qu'ils sont tous victimes de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, et c'est pas comme une lumière qu'on allume ou qu'on éteint.
Et donc, ce que vous avez fait, ce que tu as fait, c'est que quand ils étaient dans le studio et que tu les as pris en photo, il y a un moment, tu as baissé la lumière, allumé un magnétophone et tu leur as demandé de raconter. Donc, pour moi, on est là dans l'échange des mots qu'on va entendre bientôt et de l'image. Et ça s'appelle une trace, à un moment, d'une blessure. Finalement, c'est une façon aussi de laisser une trace. Moi, dernière petite chose, moi, qui me frappe quand je les vois. Enfin, je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres photos ou pas de. Est-ce que on peut peut-être mettre.
Ah ouais, ça. Ah ben bah voilà. Donc bah, c'est la droite.
Voilà, ça c'est
la fille du milieu. C'est Stéphanie. Là, vous le voyez en gros plan.
Alors là, il y a les papillons. Et ces papillons aussi, ils ont une signification particulière.
Oui, en fait, la dame qui a ses papillons dans son dos, ouais, donc c'est un tatouage qui prend tout son dos, c'est une femme qui a 70 ans, qui n'a jamais été tatouée avant, et en fait, ce soir-là, elle n'était pas présente au Bataclan, mais elle a perdu son frère, qui est mort. Et en fait, elle a fait tout un envol de papillons, mais vous voyez, l'envol est ensanglanté, et l'envol prend naissance dans le noir qu'on ne voit pas, car il est hors champ, qui est la sortie de balle, en fait, de la balle qui a tué son frère. Et donc, tous ont une histoire parfaitement incarnée. Vous voyez, on parle beaucoup, en fait, de la peau, de l'incarnation, que ce soit dans la littérature ou dans les images. Et là, on est face à des gens qui, littéralement, ont inscrit des images et des mots dans leur chair.
Oui, c'est ça, c'est inscrire des images et des mots dans leur chair. Le tatouage, il sert aussi à montrer une blessure qui est invisible. Parce qu'en fait, tous ces rescapés-là, ils ont des blessures dans le cœur, dans la tête, dans la mémoire. Ils n'ont plus de séquelles physiques. Pour certains, ils n'en ont même pas eu du tout. Ils n'ont pas été blessés physiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon, le tatouage, de rendre visible une blessure invisible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres images après ou est-ce qu'on peut passer après au son?
Ce qui est super avec les écrivains, vous voyez, c'est qu'ils vous éclairent avec des mots, des trucs que vous aviez vaguement dans vous. Mais voilà, donc ce qu'elle vient de dire là, si ça ne t'embête pas de me le décrire sur un petit papier. Parce que le principe du photographe, c'est qu'il a une mémoire toute pourrie, c'est pour ça qu'il fait des images. Parce que les images, au fond, ça inscrit de manière pérenne et définitive un événement qui s'est passé. Et l'écrivain, lui, arrive à jouer avec les mots. Donc voilà, là, ça c'est d'autres images. Donc vous voyez, on tourne beaucoup autour des têtes de mort.
Non, il y a des étoiles là. Moi, j'adore le regard de... Comment il s'appelle, celui qui est complètement à droite?
J'ai un trou.
Bon, en tout cas, il a un regard que je trouve très beau. Parce qu'on ne sait pas si c'est du chagrin ou... Enfin, je trouve que c'est un regard vers l'horizon en même temps. Je trouve ça très beau. Et lui, il a mis des étoiles. Un cœur aussi.
Et je vais vous montrer la dernière, comme ça après on peut passer. Ah oui, ça c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Je trouvais qu'elle ressemblait en fait aux icônes
Et bah, elle a mis Kiss the Devil aussi, sur, ouais. Qui est la ouais. chanson du groupe ce soir-là.
Donc on est dans les mots au fond.
On est dans les mots, ouais. Exactement. Là pour le coup on est dans les mots. Alors ensuite, tu avais parlé donc de ces voix qu'on peut entendre. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, l'extrait qu'on s'apprête à entendre? Qui est la personne qui le dit et dans quel contexte?
Alors, donc là, c'est évidemment impropre de montrer ça là. Enfin, on montre des petites choses. Le projet ne ressemblera pas à ça. Il va être en deux volets. Il va y avoir d'une un livre, un gros machin de 500 pages où il y aura les images et une partie des témoignages retranscrits et réécrits des rescapés tatoués que j'ai rencontrés. Il y aura aussi une installation artistique où j'aimerais pendant quasiment 24 heures, en fait, dans une pièce où on peut s'allonger, où on soit face à des sons exclusivement. Donc l'intégralité des témoignages, c'est une rencontre. Vous voyez, quand on parlait des images, au fond, ou des mots, pardon, mais pour moi c'est la même chose, ils prennent chacun des formes différentes. Quand je lis un roman, ça me provoque des images. Et je n'ai pas du tout envie de voir d'images. Vous voyez, je ne sais plus à qui je parlais tout à l'heure de... des grands romans que j'ai lus, que ce soit Madame Bovary ou Le Comte de Monte Cristo, pour prendre des romans de nature assez différente, Emma ou Edmond Dantès, moi j'ai pas envie de les voir sous les traits des jeunes premiers du cinéma français, quoi. Et donc du coup, le fait de lire un livre, ça me crée des images des personnages. À l'inverse, quand je vois des images, je me crée aussi tout un monde du langage. Et tout l'enjeu, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de poser en fait les questions d'une rencontre possible. Comment est-ce que c'est possible? Et là, dans le projet sur le Bataclan, la manière dont j'ai trouvé une rencontre possible, vous entrez dans une salle qui est dans l'obscurité, il y a un écran qui diffuse une sorte de vidéo en boucle de détails de tatouage en gros plan, et puis vous avez du son. Et le son, ce sont ces gens qui parlent, ces témoins qui se sont livrés à moi et qui racontent leur histoire. Et je trouve qu'avec une voix, quand vous passez une heure avec quelqu'un qui vous parle, c'est le principe de la radio, c'est pour ça qu'on aime aussi Clara qui écrit beaucoup à la radio, mais que je pense que vous partagerez avec moi ce sentiment-là, qu'on se sent bien quand on écoute la radio. C'est qu'au fond, on n'a que la voix, mais on est face avec la personne. Et je finis là-dessus, c'est que, pardon, je suis un peu long, mais c'est qu'au fond, la littérature, la photographie, c'est la même chose dans le sens où on fait appel à un sens. En l'occurrence, pour la photographie, c'est la vue. Bonne question pour la littérature. En tout cas, la littérature qui est dite, c'est Louis, à l'exclusion des autres. Mais les autres, ils bossent. Quand je vous disais que quand je lis un livre, j'ai des images qui me viennent et des sons. Quand je regarde des images, j'ai plein de mots, j'ai plein de sons qui me viennent et des odeurs. Et j'aime bien, en fait, proposer aux spectateurs d'être face à un sens et le faire travailler sur les autres. Donc, pour répondre à la question de Clara, elle me fait des gros yeux, là. Là, on va écouter un bout de témoignage d'Alix. Donc, Alix, comme de nombreux autres rescapés, a été dans la fosse, elle a fait le mort, parce que les terroristes donc, sont rentrés, ont tiré, et puis après, sont restés. La particularité du Bataclan, c'est ça. C'est que la plupart du temps, on est face à un événement horrible, un accident de la route, une fusillade, quelque chose comme ça, où quelque chose se passe et puis ça s'arrête. L'accident a lieu, après les secours arrivent. Sur les terrasses, lors du 13 novembre 2015, les terroristes arrivent, tirent et s'en vont. Le Bataclan, il y a un huis clos, en fait, entre des gens comme nous, qui viens d'assister, pas à une conférence, mais à un concert. Je peux chanter aussi si vous voulez pour vous voir, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis, des terroristes arrivent et ils restent. Et du coup, c'est tout l'enjeu de l'horreur.
Concrètement, ça veut dire qu'ils achèvent les blessés et qu'ils passent dans la salle, ils restent et ils tuent les gens qui restent. Donc Alix, elle faisait partie de ceux qui ont fait le mort.
Exactement. Voilà. Et on va vous faire écouter. Donc, alors c'est un tout petit bout. Donc moi, ça me troue le cœur parce que ça prend son sens vraiment dans la durée. Mais elle nous pose là des questions. Enfin, on en reparle après. Voilà. Ça dure 4 minutes.
On peut monter le son peut-être, ouais.
Un truc qu'il faut que je raconte, c'est important pour moi. C'est... Je ne sais plus dans quel ordre tout ça s'est passé, mais il y avait un mec en face de moi que j'avais repéré au début du concert, qui était chauve. Et du coup, avec mes copains, en plus, c'était le mec qui était là tout seul, qui avait ses petites lunettes, un peu... Alors, bon, pas le même style, mais qui avait un style un peu comptable. On ne savait pas trop ce qu'il foutait là, mais on trouvait ça rigolo qu'il soit là tout seul, à fond. Et bon, on l'avait appelé Crâne d'œuf, du coup, pardon. Et donc, Crâne d'œuf se retrouve face à moi. C'est plus le même mec, clairement. Hein. Et en fait, il a le visage recouvert de sang. Il répète en boucle. Il faut sortir, je suis blessée. Mais assez fort, en fait. Il faut sortir, je suis blessée. Il faut sortir, je suis blessée. Il faut sortir, je suis blessée. Et moi, je ne sais plus à quel moment, si c'est avant ou après, que je le regarde dans les yeux. Ce que j'arrive plus à savoir, je le regarde dans les yeux et ce que je vois me terrifie, quoi. En fait, j'ai l'impression, je sais pas si j'ai vu son âme, enfin, dans le sens, enfin, dans ses yeux, j'ai lu tout, quoi, l'espèce de, enfin, la terreur, enfin, je sais pas quand on n'a pas vécu ça. Moi, avant, je savais pas ce que c'était que la terreur. C'est pas la peur, c'est la terreur, quoi, l'espèce de, ça te glace, quoi. Et en fait, je vois ça dans ses yeux et je n'arrive pas à savoir si c'est moi que je vois et c'est ça qui me terrifie ou si c'est lui, quoi. Et si je dis que je ne sais pas si ça s'est passé avant ou après ce que j'ai fait, c'est parce que si ça s'est passé avant, j'ai vraiment manqué d'empathie. Mais c'est important de le raconter quand même, parce qu'il n'y a pas que des belles histoires. Quand il était donc en train de s'agiter, de gueuler, hein, selon moi, qu'il fallait sortir parce qu'il était blessé, moi, je n'ai pas fait comme beaucoup de gens, comme les belles histoires qu'on a pu raconter. Je ne lui ai pas tenu la main, je ne lui ai pas dit « tout ira bien ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « ta gueule, reste couchée, ta gueule, tu ne bouges pas, tu restes couchée ». Et dans ma tête, moi qui étais à l'époque une grande fan de The Walking Dead, et donc qui aimait bien les questions face auxquelles ce programme me mettait, à savoir qu'est-ce que je ferais dans une situation de survie comme ça, est-ce que je serais la personne qui ouvrirait sa porte à tout le monde au risque de mettre les gens en danger, ou est-ce que je serais la personne dure, un peu sans cœur, prête à n'importe quoi pour protéger les siens. Moi, j'avais toujours pensé que je serais l'empathique et qui prendrait des risques. Et non, en fait, j'étais... À ce moment-là, je repense à The Walking Dead et je me dis, bah, le mec, s'il continue à gueuler, il va attirer l'attention des mecs sur nous. On est tous, faut savoir, à ce moment, on est tous allongés par terre, les uns contre les autres. Moi, j'ai un mec sur les jambes, je crois. Enfin, c'est jusqu'à, enfin, pendant un moment, moi, j'avais surtout l'impression qu'on tirait au-dessus de nous. Et parce que je chantais une espèce de, je chantais un peu le souffle des balles et tout, mais je rien. Enfin. Et du coup, quand ce mec se met à gueuler, je me dis, s'il continue, en fait, je l'assomme. Enfin, je ne savais pas comment. Je commençais à réfléchir. Est-ce que je lui tape sur la tête avec mon poing, comme ça? Et comment est-ce qu'on assomme quelqu'un, en fait? Je me disais, s'il continue, il va attirer l'attention des mecs. Et le mec, il a juste à pencher son arme sur nous. On est un tas de gens qui se tortillent au sol. Il tue 25 personnes d'un coup, dont mes amis et mon mec. Donc, voilà. Donc moi, je ne fais pas partie clairement des gens qui ont fait preuve de cette belle humanité dont on a parlé. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui a été le plus difficile pour moi. à digérer. Et un des trucs pour lesquels je l'en aurais le plus voulu aux terroristes, parce que en fait, ils m'ont forcé à voir des choses de moi que je ne voulais pas voir. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais j'ai fait du chemin depuis, j'accepte tout ça et je suis OK. Mais j'avais une image de moi, celle qui se sacrifie, qui protège les autres. Et en fait, non.
Merci beaucoup. C'est très, très émouvant parce que ce que dit Alix, quand elle dit « là où j'en veux aux terroristes, c'est qu'ils auront pris cette belle image que j'avais de moi, c'est celle qui aidait », alors qu'elle dit « là, je ne fais pas partie de cette belle humanité, j'ai dit ta gueule et j'ai cherché à assommer un blessé à côté de moi qui allait attirer l'attention ». Moi, je trouve ça sublime, ultra courageux. Et très proche de nous. Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me remue. Ce témoignage-là d'Alix, il me renverse. Hein.
Oui, je sais pas quoi dire de plus, mais on pourrait presque croire que c'est de la fiction, au fond.
Oui, mais là, à ce moment-là, en tout cas, pour reprendre l'échange mot-image, est-ce que là, le témoignage d'Alix qu'on vient d'entendre, c'est typique un moment où, en fait, l'image ne peut rien ? C'est les mots qui prennent le relais à ce moment-là ?
En fait, tous ces témoignages, ils viennent de ce constat d'échec. C'est-à-dire que je vous ai dit au début que je photographiais principalement des visages. Je suis considéré comme étant une sorte de spécialiste du portrait et des visages, où j'arrive à trouver derrière le masque social quelque chose, au fond, qui discrimine la personne, dans un bon sens du terme, qui va expliquer des choses. Et là, je savais que j'allais échouer. Et on est dans cet extrait-là, mais j'en ai plein des extraits. Ils ont tous des histoires qui sont magnifiques et singulières. Et vous voyez, si je vous donne un exemple, la cervelle, on sait tous ce que c'est. On en a tous déjà vu. On était chez un boucher, on en a acheté. Bon, voilà. Le mot est associé à une image. Mais voir de la cervelle ou des bouts de cervelle ce soir-là face à des humains qui sont comme vous et qui sont morts, c'est quelque chose, si on vous le dit avec des mots, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est à ce moment-là et ce qu'on ressent quand on voit ça. Et moi-même, je le comprendrai, je l'espère, jamais. Et donc, je me suis dit, quel que soit le talent dont je pourrais faire preuve en matière d'image, de toute façon, je vais échouer. Et donc, il faut accepter cet échec de l'image. Donc, c'est pour ça que les photos, elles sont très simples, au fond, assez factuelles. Et de montrer par ailleurs des sons où les gens vont pouvoir nous raconter, suivant leur pudeur et leur volonté, des choses plus ou moins détaillées de cette soirée.
Bah, ça veut dire que les mots, ils viennent en renfort de l'image, alors. Ils viennent au secours de l'image, qui ne peut pas exister, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, merci, Olivier. En tout cas, ça, c'était l'épisode, entre guillemets, Bataclan, parce qu'on va passer à un autre projet que tu as en cours. Il y a une expo en ce moment au musée Chagall à Nice. Alors là, cette fois, c'est plus proche de nous. Vous avez dû en entendre parler. C'est une série que tu as commencée sur les réfugiés ukrainiens, puisque la guerre en Ukraine, ça, vous êtes au courant. Il y a eu un moment, encore maintenant d'ailleurs, un afflux de réfugiés. Je ne sais pas si on peut le voir sur l'écran. Voilà. Il se trouve que tu as décidé d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez toi. Principalement des filles, puisque les hommes, par définition, ont été mobilisés pour aller faire la guerre. Donc, il y a plus de filles que de garçons. Et donc, voilà ces portraits que tu as faits de ces réfugiés. Voilà, je te laisse la parole pour nous expliquer ce projet.
Donc là, on va vous montrer des vidéos. Donc là, l'image, elle est juste factuelle pour avoir une image pendant qu'on parle. Mais au début de la guerre, donc en février, je me suis dit, il faut faire quelque chose en fait pour aider ces gens. Et comme plein d'autres gens, en fait, j'ai mis une annonce en disant, moi, j'ai un bout de canapé qui sert à rien la nuit, puisque là où je travaille le soir, je pars et je reviens le matin. Donc s'il y a quelqu'un qui dort pendant que je suis pas là, ça me pose pas de problème. Et j'ai eu plein de demandes et plein de gens qui se sont en même temps en fait qui ont dormi là. Et en parlant avec d'abord ces filles, puis les garçons, en fait, je me suis dit, mais au fond, je suis quand même vaguement photographe, donc c'est bien de pas juste les accueillir, mais éventuellement faire des photos. Donc, je leur ai demandé, elles m'ont dit, il n'y a pas de problème. Et en voyant les images, bon, ça reste assez... Là encore, c'est pas, ça ne fonctionne pas, en fait. Quoi, vous voyez, ces gens-là, cette fille-là, par exemple, vous voyez, dans l'image qu'on associe au mot réfugié, c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de la crise en Ukraine, de la guerre. Enfin, c'est pas tout l'intérêt, c'est horrible de dire ça, mais c'est... Je vais reprendre ma phrase. La crise en Ukraine nous amène à nous poser la question d'un certain nombre de vocabulaire. Et si vous posez la question à vous-même, qu'est-ce qu'un réfugié ? A priori, on n'associe pas ce visage-là à un réfugié jusqu'à cette guerre. Et du coup, en voyant les images, je me suis dit, mais c'est intéressant, creusons plus ça, quoi. Et donc, là encore, c'est un échec de l'image. C'est-à-dire que l'image ne va pas du tout montrer la réalité de ce que ces gens-là vivent. Et du coup, en parlant avec elles, on s'est dit, on est passé par plusieurs étapes, une liste de questions qu'elles ont faites, et je crois que ça ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, mais pour que l'audience, c'est c'est une traduction anglaise, pour que le public français et européen puisse comprendre en fait ça, avec derrière l'idée que si on commence à accueillir des réfugiés qui sont, on va dire, blancs et qui nous ressemblent, peut-être que plus tard, on accueillera d'autres réfugiés et qu'on sera plus généreux. Mais ça, c'est un autre problème. Associons, en fait, à ces images, un témoignage. Et à chaque fois, on va vous montrer des extraits qui sont la plupart du temps en anglais, mais c'est sous-titré en français. C'est l'idée de prendre un petit axe très simple sur lequel on peut se positionner. Par exemple, on peut tous imaginer ça, c'est la guerre, on doit quitter notre appartement, notre maison. Là, vous quittez dans 5 minutes, vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous prenez ? Ouais. On ne part pas en vacances, vous ne savez pas si vous allez pouvoir revenir, si quand vous revenez, la maison sera toujours là ou elle sera détruite. Du coup, littéralement, comment on se projette, quoi ? C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire, c'est pas compliqué, je prends 4 valises et puis au moins je prends tout ce que j'ai chez moi, enfin plein de trucs. Ouais, mais si vous marchez 10 km, vous arrivez dans une gare bondée avec des milliers de personnes, est-ce que les 4 valises, c'est forcément une bonne idée ? Peut-être pas. Et donc là, on n'écoutera pas ce témoignage, c'est pour ça que je vous en parle. Mais la plupart des gens, en 5 minutes, elles ont rempli un petit sac à dos avec ce qui leur est tombé sous la main, sans réfléchir vraiment plus loin, parce qu'ils ne sont pas non plus en état parfaitement de réfléchir à ce moment-là, quand il y a des sirènes et des bombes qui tombent autour de vous, et elles sont parties. Et du coup, je trouvais que par rapport à ce qu'on a beaucoup vu dans les médias, les camps de réfugiés, évidemment les images de la guerre, parce que comment mieux représenter la guerre qu'en allant sur place, en faisant des images, des photos ou des vidéos, donc soit de mort, soit de destruction. Moi, je n'ai ni ce courage-là, et j'ai toujours pensé qu'il était intéressant de prendre un axe, en fait, par rapport au réel. Ces gens-là viennent, dis-moi. Une fois que ces gens-là sont quelque part, comment montrer ces réfugiés-là ? Parce que là encore, j'ai beaucoup vu, moi, dans les médias, les familles avec des enfants, les femmes âgées. Et sauf que moi, j'ai mis une annonce et puis il y a des gens qui m'ont demandé « Est-ce que je peux venir dormir chez vous ?» J'ai sélectionné personne et tous les gens que j'ai vus, c'était d'abord des jeunes femmes entre 20 et 25 ans qui avaient traversé l'Europe toutes seules. Ensuite, j'ai vu des couples. Donc des couples, c'est souvent un garçon et une fille, en tout cas en l'occurrence pour l'Ukraine. Ça veut dire que le garçon, lui, a décidé de ne pas faire la guerre. Et donc, il y a un extrait aussi qu'on va entendre d'un garçon qui dit alors pas aussi clairement, mais ouais, il n'a pas rempli ses devoirs en fait d'aller faire la guerre pour son pays, ce qui peut poser la question à tous les garçons qui sont présents dans cette salle. Évidemment, si on te dit il faut défendre la France, tu dis, oui, bien sûr, je vais faire la guerre. Ouais, mais si maintenant il faut prendre une arme et risquer de mourir et de tuer quelqu'un, la question est différente. Et moi, j'apporte aucune réponse. Mon enjeu ici, grâce au son et aux images, c'est de susciter des questions, en fait, pour que chacun puisse se dire, au-delà de l'incantation, si j'essaie de me placer dans la situation, comment est-ce que j'aurais pu réagir ? Ça, c'est la fille qui est partie avec son petit sac à dos, Lisa. Donc ça, c'est un témoignage qu'on n'écoutera pas parce que je ne vais pas vous prendre toute l'après-midi, mais... Une des particularités, c'est que les réfugiés qui sont évidemment en sécurité, ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est être en sécurité. Il y a la sécurité physique. Je suis en Europe la guerre ne peut plus m'atteindre directement pour me faire mourir. Néanmoins, qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi mon avenir ? Et elle appelle sa mère tous les jours. Et avant de l'appeler, elle se dit, mais ça se trouve, ça va sonner dans le vide parce qu'elle sera morte. On regarde un extrait ?
Oui. Tu veux peut-être dire un truc ? Non.
Et franchement, pour que Clara arrête de parler, il faut qu'elle soit vraiment émue. Alors, vous avez remarqué que je ne suis pas un professionnel de l'informatique avec le PC. Donc, je rame un peu, mais je vais finir par y arriver. Allez, Paulina.
The country, my hometown, are bombing now. And now I'm traveling around the world to find a place to stay, to build new life. I still don't know what will happen tomorrow. I still don't know what city I will live. And everybody asking me if they can help me somehow, if I'm in a safe place. And yeah, physically I'm safe, but every day I'm thinking about my country that is bombing, and I think that I should be there. I should be under the bombs because it's part of me. I am Ukrainian and I should be there. And at the same time, I need to move further, but I can't.
Je vais vous en faire passer plusieurs. Juste rapidement pour parler de cette jeune fille. Vous voyez ce qu'elle dit, en fait, je dois avancer, mais je n'arrive pas. C'est quelque chose que j'ai découvert en fait en fréquentant ces réfugiés. C'est un garçon qui m'a dit ça, qui m'a dit, en fait, le problème d'être un réfugié, c'est qu'on est toujours dans le même temps, c'est qu'on vit dans le présent. Et je dis, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Et il me dit, mais en fait, on passe notre temps à être dans les trois temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. La prof de français peut être aussi intéressée là-dessus, à faire travailler ses élèves. Mais vous voyez, on dit, ah, mais tu te souviens, l'année dernière, on était là en vacances, peut-être que l'été prochain, on pourrait y aller. Mais, donc, on est dans les trois temps. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. OK, ils sont en sécurité physiquement, puisqu'ils sont en France. Mais en fait, demain, peut-être qu'ils devront aller dans un autre endroit. Ne serait-ce que là où les gens les logent, ça peut s'arrêter. Moi, je logeais les gens que quelques jours quand ils arrivaient en France, histoire qu'ils se projettent dans est-ce que je reste dans ce pays, est-ce que je vais dans un autre pays. Si je reste en France, est-ce que je demande le statut de réfugié. Qu'ils puissent se poser ces premières questions-là et penser à l'avenir. Mais évidemment, c'est pas évident, évidemment, d'être comme ça. Et donc, du coup, ce que nous dit Paulina, qu'on vient d'entendre, c'est ça. C'est je devrais penser au futur, mais c'est impossible. Donc, Yaroslav, dont je vous parlais, c'est ce garçon qui va nous parler de manière pudique de, vous allez voir, de son la nécessité. Ah. Tac. Yaroslav est venu au studio avec deux amis. C'est le premier garçon que je rencontre. Bon, avec une image, ce serait mieux. Mais... On va essayer une autre fois. Sinon, pour ceux qui ont... il faut que la salle paye 1 euro.
Il y a le monsieur qui va venir, non ?
Le monsieur va nous parler. Depuis sa cabine.
Le monsieur vous parle, je suis la voix, excusez-moi. Il faut faire un clic droit sur le fichier et ouvrir avec VLC, ça fonctionnera je pense.
Ça roule. qui ouvrira. Ah oui. C'est bien. Je vous remercie.
Yaroslav est venu au studio avec deux amis. C'est le premier garçon que je rencontre. On m'a dit que les hommes n'avaient pas le droit de quitter l'Ukraine car ils devaient combattre. Il m'a dit qu'il était parti juste avant que l'interdiction ne soit prononcée, qu'il lui était impossible de tenir une arme et impensable de tuer un autre humain. J'ai pensé à Albert Camus, à la question du choix. À travers le visage de ce jeune homme, je me pose la question de ce que j'aurais fait à sa place. Et je n'ai pas de réponse.
Donc, pour ceux qui ont des réseaux sociaux, notamment Instagram, toutes les photos, toutes les vidéos sont sur un compte que j'ai créé à partir de mon propre compte. Enfin bon, voilà, mais qui est assez facile à trouver. Je vous en montre encore deux dernières. On verra si ça marche par là ou s'il faut que je change. Alors, on va faire clic droit. Je peux me la péter maintenant, je connais à mort les PC. Ouais, le PC, je suis né avec.
So I'm Ksenia from Sumy and our town only 30 kilometers from Russia, near the border. And in the first day of the war, 24th of February, they came to our city already at 10 o'clock in the morning. We have gone with my daughter and my husband stayed in our city to protect the students of our university. But we have gone, and I made a little pocket for my daughter and put there some money and a little piece of paper with number of her passport, with her name, with her birthday, because I don't know, I didn't know on that period what it would be in future. I can die. And that is why she needs to have some documents. And I explained for her several times that Zlata, you have money and this is your documents. If you will need something, you need to go there and there. And she asked, Mother, why you are telling such things for me? Are you going somewhere? I said that no, I will be with you all my life. But if I will die, you need to know that you have money and you need to be alive.
Donc, vous voyez là encore. Ouais, on vous en montre une dernière. La dernière, c'est une chanson.
Ah, elle est trop belle, celle-là. C'est une réfugiée ukrainienne qui s'est mise à chanter.
Une chanson populaire ukrainienne. Donc, évidemment, il n'y a pas de traduction, mais ça parle des montagnes d'Ukraine.
В полі калина, у полі червона, хорошенько цвіте. Прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо батько у нас є.
Ah, c'est trop beau. Bah, merci. Vous êtes tué encore en contact avec ces personnes, parce qu'il faut savoir quand même qu'elles restent 3 jours. Ces gens-là, ils restent 3 jours et ils repartent, en fait.
Oui, je suis en contact avec tout le monde. Et j'ai accueilli, je ne sais pas, une quarantaine de personnes et j'ai dû en rencontrer presque une centaine. Et à des moments, l'endroit où je travaille, il était ouvert, quoi. C'est-à-dire qu'un matin, par exemple, il y a une personne qui me dit « Excuse-moi, on a une copine qui vient d'arriver, elle n'a pas d'endroit où... Est-ce qu'elle peut venir prendre un café ?» Je dis « Bah, évidemment. » Et la jeune fille arrive, elle me dit... elle dit pas bonjour, elle dit « Je peux me doucher ?» Je dis « Oui, je vous en prie, c'est par là. » Et quand elle sort, elle dit « Je peux avoir un café ?» Je dis dis, ouais, bien sûr. Dans ma tête, je me dis, bon, tu peux dire bonjour, merci. Enfin, tu vois. Ouais. Et une fois qu'elle a pris son café, en fait, elle commence à parler. Et elle dit, je suis arrivé hier en France. Donc, ils ont tous à peu près le même chemin. Ils sont passés par la Pologne, par l'Allemagne, Varsovie, Cracovie, Berlin et puis Paris. Une fois qu'ils ont réussi à fuir l'Ukraine. Et elle dit, je suis arrivé hier soir à Paris. Et j'avais aucun endroit où dormir. Donc, j'ai passé la nuit, en fait, sur un banc avec des SDF. Et voilà. Et donc, symboliquement, le fait de pouvoir se laver, de boire un café, c'était revenir à une vie qui a été celle normale, quoi.
Et alors, pour, juste pour mémoire, donc le livre sur le Bataclan, il va sortir en septembre. Et ça, l'expo, il y a sur les Ukrainiens, il y a une expo en ce moment au musée Chagall de Nice. J'oublie rien. Non, il y a des actus que j'ai pas. Voilà.
C'est aussi sur les réseaux sociaux pour ce qui est des réfugiés ukrainiens et c'est updaté régulièrement parce que j'en mets en ligne tous les deux jours.
Voilà, vous avez une belle démonstration quand même du mot et de l'image. Qui, y en a peut-être un qui vient en renfort de l'autre, mais enfin, il marche quand même assez côte à côte pour ce genre de résultat qui s'appelle de l'art. Donc merci beaucoup, Olivier Roller. Ah oui, attendez, j'ai oublié. Si vous avez des questions, j'ai complètement oublié. N'hésitez pas, mais enfin, en général, il n'y en a pas. Hein. Personne n'ose. Alors, mais c'est vrai, personne n'ose. Donc, voilà.
Il y a un monsieur du fond qui voudrait poser une question.
Bon. Bonjour et merci pour ce qu'on vient de voir et d'entendre. Mais les images, des fois, se suffisent à elles-mêmes comme un tableau. On n'a pas forcément besoin de l'expliquer. Pas de l'expliquer, mais de l'accompagner. Et tout peut exister, quoi, en un mot. C'est pas une question, c'est... vous pouvez y répondre quand même.
Merci. J'espère que Clara va y répondre à ma place. Mais, oui, vous avez raison. C'est ce que j'ai l'habitude de penser. Et si on vous a présenté les deux projets là aujourd'hui, c'est que j'avais le sentiment que par rapport au vécu des gens, à l'expérience des événements dont on parle, l'image n'était pas suffisante. Et qu'il fallait des mots qui d'un coup étaient bien plus intéressant et performatif que l'image. Voilà. Et ça fait quelques années que je travaille et c'est les premières fois seulement où je me dis que l'image aurait besoin de plus que d'elle-même. Vous voyez, quand on reprend les tatouages du Bataclan, là vous avez écouté qu'un seul entretien, un tout petit bout, hein, mais y a un autre passage qui est un peu dur, mais où un des rescapés, en fait, se dit à un moment donné, il a compris que les terroristes, en fait, rechargeaient leur Kalachnikov une fois que le chargeur était vide, et il comptait. Il dit, ça prend en gros 20 secondes. Et du coup, j'ai 20 secondes pour éventuellement tenter de sortir. Et plusieurs fois, il n'ose pas. Et il voit, en fait, quelqu'un, une jeune femme, qui est allongée sur un tas de corps et qu'il le regarde et en fait il parle de ses yeux bleus alors que là on est quand même oui, ce qui est intéressant c'est que après on peut réfléchir, on peut se demander s'il a vraiment vu les yeux bleus, mais en tout cas ses yeux bleus, les yeux bleus de cette femme lui donnent la force en fait de se lever et de partir. Et je peux vous montrer la photo de cet homme avec son tatouage. Je trouve que rien ne sera plus fort que le témoignage dont je vais vous... Voilà. Et peut-être que si vous regardez l'image, elle va vous dire des choses. Si vous écoutez le témoignage, peut-être qu'après, vous allez revenir vers l'image et vous dire, tiens, au fond, qu'est-ce que ça m'évoque ? Voilà.
D'autres questions ?
Alors, je vais poser la question pour tout le monde. Comment vous choisissez de photographier en couleur ou en noir et blanc ? Et ben en fait, sur les deux sujets qu'on vient de voir, ça traite du monde dans lequel on vit. Donc, quand on se regarde là les uns les autres, on se voit en couleur. Donc, je travaille avec les outils d'aujourd'hui en couleur. Donc là, la question pour moi ne se pose pas parce que le sujet s'impose à moi. À d'autres moments, je peux avoir envie effectivement de créer de la distance pour caricaturer un peu. On peut dire que la couleur, c'est la réalité. Et le noir et blanc, on a fait un pas de côté vers la fiction, puisqu'on voit en couleur, quoi. Voilà. Et là, c'est évident qu'il ne faut pas rajouter soit du pathos, soit... vous voyez, le sujet en lui-même, il faut être humble face à lui et se dire, voilà, moi, je vais te regarder et le transmettre à d'autres. Je ne peux pas faire plus, quoi. Et je ne veux pas faire plus. Vous voyez. Est-ce que ça a répondu ou pas ? Ouais.
Non, vous avez le droit de continuer à poser des questions. Vous pouvez creuser.
Je ne sais pas très bien comment l'interpréter, mais au niveau du tatouage, il y a quand même un lien avec ce qu'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, eux se tatouent volontairement, alors que, au contraire, en 1945, on les tatouait, mais involontairement.
Oui, ouais, j'ai évidemment pensé à ça. Il y a d'ailleurs un anthropologue qui s'appelle David Le Breton, qui a longtemps travaillé sur le tatouage. Donc, vous allez pouvoir aussi voir ce qu'il raconte là-dessus. Il se trouve que là, je vous ai montré des photos de tatoués qui se sont soit tatoués un dessin, soit une phrase. Mais certains des rescapés se sont tatoués la date, 13, 11, 15. Et là, on est face à des chiffres qui font évidemment encore plus référence à la Shoah. Et c'est toute l'ambiguïté du tatouage, en effet, qui remonte après, bien avant le XXe siècle. Hein. Mais dans notre culture occidentale, j'ai eu le même rapport que vous. C'est, pour le dire pudiquement, c'est pas banal de se faire tatouer après un événement dramatique, quoi. Mais j'ai pas d'explication plus intellectuelle que ça. Je suis comme vous. Ça fait partie des questions qui évidemment sont évoquées quand on voit les tatouages de ces gens-là.
Bonjour. Moi, j'ai une question, c'est sur le travail du regard, parce que sur les photos des Ukrainiens, notamment, je trouve qu'il y a une accroche de l'âme par leur regard. Et sur les photos du Bataclan, ce qui m'a frappé, c'est que souvent, vous avez caché les regards. Soit on n'a pas le visage, soit on a des lunettes de soleil, soit les yeux sont fermés. Sur les tatouages, même chose, les yeux ont une place. Souvent, quand c'est un crâne, il n'y a juste pas d'œil. Donc, je voulais savoir quelle place vous accordez au regard dans vos photos.
Merci de votre question parce que c'est central. J'avais oublié. Et on ne veut pas parler de tout. Mais pour le Bataclan, après que Jean-Claude, qui n'a pas voulu enlever ses lunettes de soleil, c'est le seul qui... On s'est fâché. Hein, et comme il est plus costaud que moi, j'ai dit non, mais c'est bon. Vous pouvez le garder si vous voulez. Après que j'ai écouté son témoignage, je me suis dit, au fond, je ne suis pas capable de montrer dans une image ce que ces gens-là ont vécu. Je ne suis pas capable de restituer le début, en fait, de ça. Donc, autant rester le plus loin possible. Physiquement, vous voyez, j'adore les visages. Donc là, je suis très loin dans une distance physique. Et pour chacun, j'ai mis la lumière très verticale pour justement faire rentrer les yeux dans le noir, histoire de dire au spectateur, de lui faire sentir, et vous l'avez senti, au fond, ma spécialité qui est de photographier des regards, j'assume mon échec, qu'avec le regard de ces gens-là, je n'arriverai pas à montrer le début de l'expérience qui a été la leur. Donc l'histoire ne se situe pas là, toi lecteur, va regarder ailleurs, en l'occurrence sur le corps et sur le tatouage. Mais peut-être qu'en disant ça, vu que les yeux deviennent deux trous noirs, enfin deux zones sans détails, sans matière, je dis aussi Mais peut-être qu'en fait, l'histoire se situe là. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, nous, regardeurs de ces images, voilà, le regard absent, c'est aussi un regard qui est présent.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous demandez sur les regards, c'est que à partir du moment où le regard n'est pas montré, c'est comme si c'était la peau qui prenait le relais, parce qu'en fait, on ne voit pas leurs yeux, mais on voit leur peau. Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est la peau arrive comme un livre, en fait. On la lit, cette peau, à défaut de lire le regard.
Et c'est ce qu'on retrouve dans l'enfant de votre roman aussi.
Alors qu'en effet, les Ukrainiennes, elles vous regardent droit dans les yeux. Mais sans doute aussi que, peut-être, j'en sais rien, mais que là, il y a une expérience de vécu. Sans doute que celle du Bataclan, ont approché la mort de si près. Ce n'est pas la même expérience d'être dans une tuerie de masse, que, et ça ne veut pas dire que c'est moins douloureux, hein, ça n'a rien à voir, que l'exil forcé. Je pense, enfin, en tout cas, moi, quand je lis le regard des réfugiés ukrainiens, somme toute assez droit. Somme toute assez, il y a encore quand même un peu d'espoir. Ils ont leurs proches au téléphone. Je trouve qu'il y a un peu plus d'espoir que les rescapés du Bataclan, qui ont approché de si près la destruction que c'est pour ça quand Olivier dit ils sont toujours pas sortis de cette salle de concert. Je pense que c'est exactement comme ça qu'ils le ressentent. Et ça se voit dans les images d'eux-mêmes en fait.
Mais à titre d'anecdote, une des personnes, un des rescapés m'a dit « Ce soir-là, j'ai embrassé la mort sur la bouche. » Voilà. On parle là, pour moi, de choses que, comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas même comprendre. Je peux que imaginer, mais donc j'en serai loin. Donc autant symboliser l'échec par l'absence du regard. Et c'est vrai que par ailleurs, les Ukrainiens ont des yeux, genre, ils sont transparents, quoi. C'est juste incroyable. J'ai pas montré là, mais j'ai une mère et son enfant. L'enfant qui a un an, il a des yeux, mais c'est limite anormal, quoi. Ils sont bleu-gris, extrêmement à queue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Et vous rentrez vraiment dans le regard, quoi. Mais je me méfie de ça aussi. C'est trop facile. Ouais. Ça cache quelque chose, donc il faut aller au-delà, d'où les mots.
Bonjour, moi j'ai une question dans ce que vous nous rapportez par rapport au fait que l'image aujourd'hui pour vous, vous vous sentiez en échec pour retranscrire une histoire et que l'image ne suffisait donc plus pour raconter cette histoire, si j'ai bien compris, et donc d'où le rapport avec les mots. Est-ce que pour vous, puisque c'est, vous avez une expérience derrière vous, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec... l'image qui est très présente dans notre société et les mots qui le sont peut-être un peu moins, ou en tout cas, on est aussi envahi d'images. Et est-ce que, par rapport à cet échec, entre guillemets, que vous nous rapportez, est-ce que ça peut avoir un lien avec cette évolution de l'image dans la société aujourd'hui pour vous ?
J'incite, avant de vous répondre, j'incite Clara à nous dire quelque chose. Et c'est plus que, parce qu'un jour, elle m'a parlé d'une phrase qui était magnifique.
Ah bon ?
Oui.
Je trouve que... Mais moi, je ne suis pas la bonne cliente parce que moi, je suis désespérée par notre société d'images qui est justement saturée d'images, images que je trouve non seulement tièdes, mais muettes. C'est-à-dire que ce soit... alors, je vais me faire huer, mais que ce soit Instagram, Facebook ou tous les réseaux sociaux, que ce soit la pub, je trouve qu'il y a un usage de l'image qui est désespérant de pauvreté. Donc, je ne suis pas... Je suis pas très bonne cliente parce que moi ça fait très longtemps c'est pour ça que moi j'adore le travail artistique parce que pour le coup c'est redonner pleinement du sens à l'image. Mais aujourd'hui l'image sert à faire son auto-promo, que ce soit pour un produit publicitaire ou que ce soit pour soi sur les réseaux sociaux. Tout est si factice, si neutre, si pauvre que moi ça ne me parle pas en fait. Voilà, sinon je vais bien hein, mais non mais je trouve ça affligeant, enfin je veux dire on est dans l'auto-promo et dans l'air de l'ego vendu comme un produit de consommation. Donc je trouve ça très bien, moi, que quelqu'un, un photographe, arrive en disant, bah, écoutez, pour moi, l'image, elle parle, elle est bavarde, et il y a des fois où elle n'arrive pas à dire. Et donc là, ce fameux échec de l'image dont il parle, moi, je pense qu'en effet, ça nous heurte aussi, parce qu'on n'est plus du tout habitué. On est tellement envahi par les images qui, par ailleurs, sont absolument interchangeables les unes entre les autres, exactement comme deux produits vaisselle, comme deux produits qu'on vend dans la publicité, que du coup, je trouve ça très bien de donner ces lettres, de redonner des lettres de noblesse à l'image, même si c'est pour avouer son incapacité à dire à un moment un ressenti ou à retranscrire un vécu. Dire l'échec de quelque chose, c'est quand même partir du principe qu'en d'ordinaire, il a des choses à dire. Donc là, de dire que l'image ne peut pas parler, ça suppose donc qu'elle peut par ailleurs, et donc je trouve ça très bien. Mais dans ce flot d'images à la fois niaise, pauvre et laide, en fait, la phrase de sociopathe, non mais vraiment, moi, je me coupe de ça tellement c'est à pleurer, quoi.
Donc Clara va vous laisser son mail et vous allez lui envoyer avant publication sur les réseaux sociaux.
Je pense qu'on est quatre en Europe à avoir aucun réseau social. Je ne suis pas sur Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas je sais pas quoi. Twitter encore moins, puisqu'il paraît qu'on peut penser avec 240 signes. Je ne savais pas. On ira dire ça à Marcel Proust. Donc je veux dire, c'est tellement hallucinant que je ne peux pas mettre un orteil là-dedans, en fait. Voilà. Sinon j'ai des amis, hein. Faut pas croire. Mais des vrais, pas des friends sur Facebook, des vrais. Là, je sens que je me suis mis toute la jeunesse à dos.
Vous voulez prendre la parole, jeunes gens ?
Lequel de vous se dévoue ?
Oui.
Tu veux pas parler ? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus qu'a dit Clara, mais il y a effectivement ce paradoxe d'une société, notre société, où l'image est omniprésente, mais avec des images qui n'ont pas grand-chose à raconter. Mais bon, on va pas refaire le monde, hein. C'est une bonne conclusion, non ?
C'est pas ça, je sens que ça a retourné tous les lycéens, ce que j'ai dit, c'est affreux. Pardon, parce que je sais que ça vous sert. J'ai une fille ado, donc... mais voilà, moi, c'est vraiment pas du tout mon... J'ai un peu de mal avec ça. Mais en même temps, si on écrit des livres, c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal entre la connexion maximale au réel, si tant est soit que les réseaux sociaux nous connectent avec le réel, et le fait d'écrire un livre. C'est parce que c'est exactement... Le livre, c'est l'anti-expérience du réseau social. Vous êtes tout seul, vous êtes face à une page blanche, vous n'avez aucune connexion avec l'extérieur, et donc vous ne pouvez vous nourrir que de votre inspiration, de votre imagination. C'est un espace de l'effort, c'est un espace de la réflexion, du danger aussi, parce que vous plongez dans des zones à l'intérieur de vous-même qu'aucun réseau social ne vous offrira. Et donc, vous êtes là, pour moi, dans une expérience de créativité qui, pour le coup, est l'inverse de la vraie vie, en quelque sorte. Donc, voilà, c'était... Bon, non mais merci, on va applaudir Olivier quand même, parce que voilà...